Francovox, la plateforme des podcasts francophones en partenariat avec TV5 Monde.
Il y a désormais 300 millions de francophones repartis sur les 5 continents. L'ensemble des pays francophones représente 16% de la richesse mondiale et connaît un taux de croissance de 7% avant la crise du Covid. D'après l'Organisation internationale de la francophonie, le nombre de francophones pourrait tripler en 30 ans. Le français pourrait devenir ainsi la langue parlée par près de 8% de la population mondiale, contre 3% aujourd'hui. Sur le continent africain, qui deviendra le plus peuplé au monde, d'après les prévisions, 3/4 des francophones auront bientôt moins de 30 ans. Permettre à la jeunesse d'acquérir les aptitudes, des compétences nécessaires pour entreprendre, innover, s'insérer dans le marché du travail, investir dans leur formation, ce sont des défis majeurs à relever pour la francophonie. Mais entreprendre s'apparente parfois à un parcours du combattant. Et devenir jeune entrepreneur en Afrique est encore plus compliqué. Les obstacles sont de différentes natures. Un environnement des affaires peu favorable, des formalités administratives lourdes, un contexte politique parfois difficile, ainsi que le poids de la culture et de la société. Pourtant, il y a des jeunes qui osent et qui réussissent. Et ils sont déjà nombreux, ces francophones de l'avenir. Bienvenue dans le podcast « Elles, ils font bouger la francophonie », un podcast produit par Fusio Studio. Je suis Eva Levesque et je suis accompagnée aujourd'hui par Aziz Senikunche. Bonjour Aziz.
Bonjour.
Nous allons parler donc de votre projet et de votre parcours. Vous avez fondé Drone Africa Service, une entreprise qui conçoit et produit des drones en Afrique. Ce n'est pas du Made in China.
Effectivement, ce n'est pas du Made in China. Drone Africa Service, c'est une entreprise que j'ai créée en novembre 2016, qui est basée au Niger et qui à ce jour est spécialisée dans le travail aérien par drone. Et aussi dans l'aviation légère, c'est-à-dire qu'on utilise aussi des ULM, donc des avions légers, pour pouvoir effectuer des missions de captation sur tout le territoire, aussi bien au Niger que dans l'Afrique de l'Ouest.
Et commençons par le début. Vous êtes né
au Niger.
Et vous avez quel âge?
J'ai 38 ans, donc je serai dans ma 39e année très très bientôt.
C'était votre première aventure entrepreneuriale?
Effectivement, donc c'est parti d'une passion. Donc Drone Africa Service est ma première entreprise dans laquelle je me suis lancé dans le cadre de l'entrepreneuriat.
Donc une passion, parce que vous avez fait des études dans un domaine complètement différent, pas en aéronautique.
Mon parcours est assez atypique dans le sens où j'ai un baccalauréat série L pour littéraire. Et ensuite, après le baccalauréat, j'ai poursuivi mes études, notamment en gestion commerciale, avec une licence en gestion commerciale, et ensuite un master en supply chain management, en logistique.
Et donc, comment vous êtes arrivé à votre entreprise, en fait? Donc, une passion depuis votre enfance?
Ça remonte depuis, je pense, depuis mes 4 ans. Puisque déjà très très jeune, avec mon père, on allait faire des tours dans l'avion de l'aéroclub. Donc je pense qu'il m'a inoculé ce formidable virus qui est celui de l'aéronautique. Et donc je pense que c'est une passion qui ne m'a jamais quitté. Déjà, quand j'étais au primaire, toujours les yeux rivés vers le ciel, toujours en train de dessiner des petits avions sur mes cahiers. Donc, cette passion, je pense, a pris un essor tel que j'ai voulu en faire un métier. Pour vous dire qu'avant même d'avoir le bac, déjà lorsque j'étais en seconde ou en première, je m'étais débrouillé pour intégrer une école de pilotage, un aéroclub, où j'apprenais à piloter des avions.
D'accord.
Donc, avant même d'avoir le permis de conduire, je me débrouillais pour pouvoir me payer des heures de vol. Je donnais des cours d'aéromodélisme à des jeunes élèves du lycée français. Et en contrepartie, j'étais rémunéré par les parents qui me payaient des heures de vol. Il me fallait 15 heures d'instruction avec un élève, en cours particulier, lors d'activités périscolaires, pour pouvoir me payer une heure de vol en avion à l'époque.
Mais c'est donc pas tout de suite après vos études que vous avez eu cette idée d'avoir une entreprise ou de monter une entreprise.
Cette idée est arrivée bien plus tard. Après le bac, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que 2 ans après, je m'étais rendu compte que j'étais boursier. Donc je suis revenu et je me suis dit, bon, étant donné que mes parents n'avaient pas les moyens pour m'envoyer en Europe faire mes études, je me suis dit, ben, étant donné que je suis boursier, qu'est-ce que je pourrais faire ? La seule chose que je pouvais faire, c'était de suivre le parcours standard que tous les élèves de l'époque pouvaient prendre. C'était de suivre une formation en gestion commerciale. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait 2 ans, j'ai passé une licence en gestion commerciale. Et ensuite, j'ai poursuivi mes études pour avoir un master en supply chain management. Et à un moment donné, en fait, je pense que je ne sais pas si on peut dire que c'est le coup du destin ou autre chose, j'ai décidé d'arrêter tout ce que je faisais. Je me suis dit, mais ça, c'est pas moi. C'est pas vraiment moi. Je suis pas content de ce que je suis en train de faire. Ce que j'ai envie de faire, c'est de vivre de ma passion. Et donc, j'ai arrêté mes études. Et là, je me suis dit, ben, je vais me consacrer à 100% sur ce qui m'intéresse, ma passion, l'aéronautique. Et c'est de là où j'ai commencé à persévérer dans ce sens-là. D'abord, en tant que consultant indépendant, où je me rendais dans toute la sous-région pour faire des prises de vue aériennes, notamment pour différents partenaires de l'État. Il faut dire aussi que ces années coïncidaient aussi avec le début de l'insécurité et du terrorisme qu'on connaît aujourd'hui dans le Sahel. Et donc, beaucoup de partenaires ne pouvaient plus se rendre aussi sur le terrain pour pouvoir faire du monitoring à distance, notamment dans le cadre de tout ce qui concerne aussi bien les aires protégées et dans le cadre de l'agriculture aussi. Et moi, j'apportais une solution à cela en disant...
Et ce sont des débuts de drones à l'époque, non ?
Oui, c'était aussi l'avènement des tout premiers drones civils du grand public qu'aujourd'hui on connaît. C'était quelques années avant cela. Et j'ai proposé une solution, une alternative, en disant, bah, écoutez, moi, c'est simple. J'ai fabriqué un outil formidable. Faites-moi un contrat. Je peux me rendre sur le terrain et je peux faire des séries de prises de vue qui vont vous permettre justement de faire du monitoring à distance et de pouvoir égayer aussi vos rapports pour savoir qu'est-ce qui est en train d'être fait.
Mais quand vous dites « j'ai fabriqué un outil » avec vos études de commerce, comment vous avez fait pour pouvoir fabriquer donc, un
drone ? C'est là où justement tout est magnifique. C'est que même en restant en fait au Niger, j'ai utilisé quelque chose que beaucoup de jeunes aussi déjà à l'époque utilisaient, mais pour faire autre chose, c'est que j'ai utilisé mon téléphone, mon smartphone.
Donc Internet.
Internet. Déjà, j'avais tous les vieux bouquins de mon père sur l'aéronautique, sur la mécanique de vol que j'ai lu, parcouru. Mais j'ai aussi utilisé ce formidable outil qui est Internet, aussi bien à travers YouTube, mais vous avez aussi les forums. Et donc, je passais beaucoup de temps sur plusieurs forums. Aux États-Unis, des forums en France, des forums en Australie, en Chine. Et j'avais cette capacité d'absorber le maximum d'informations sur tout ce qui pouvait m'être utile dans le cadre d'une auto-formation qui me permettrait de réaliser mon projet. Et c'est comme ça que j'ai réussi à fabriquer le premier drone.
Je voulais vous demander avec qui vous avez conçu vos drones, mais en fait, non, c'est vous, les concepteurs.
C'est moi, exactement. D'accord.
Et alors donc, les utilisations aujourd'hui de vos drones, où est-ce qu'on les trouve ? Quelles sont les utilisations ?
Alors aujourd'hui, en fait, depuis le premier drone qu'on a conçu en 2010, à aujourd'hui, effectivement, c'est que nous avons une évolution des drones. Le premier drone, c'était des drones de première génération qui étaient faits en bois. Aujourd'hui, nous produisons des drones qui sont vraiment à jour en utilisant des matériaux composites. Donc, le même drone, on peut le dériver sur plusieurs modèles. Donc, par exemple, vous avez un modèle spécifiquement pour faire de l'agriculture de précision, avec un capteur multispectral, par exemple. Vous avez toujours le même modèle, mais en version C pour cargo, qu'on pourrait utiliser pour amener, par exemple, des médicaments ou amener des produits d'un point A à un point B. Ou alors, une version S pour faire de la surveillance, équipée d'une caméra pour faire de la surveillance. Et donc, on s'est focalisé sur ces trois schémas-là. L'agriculture de précision, la cartographie et la surveillance, notamment des aires protégées. Il faut savoir que, par exemple, au Niger, nous avons un parc qui est vraiment magnifique, qui est le parc W, et qui, malheureusement, est victime parfois de braconnage, voilà, où les animaux sont braconnés. Nous avons aussi Kouré avec les girafes, par exemple, la réserve de Kouré que tout le monde connaît. Eh bien, il faut aussi pouvoir être capable d'amener des solutions de surveillance vis-à-vis de tout ce que je viens de vous dire. Et c'est pourquoi nous avons conçu le modèle S.
Ils font bouger la francophonie.
Vous avez fait aussi un mapping du fleuve.
Oui, en 2018, la Banque mondiale nous a accordé cette chance, nous a vraiment fait confiance et nous a octroyé une mission de captation d'une grande partie du fleuve Niger dans le cadre d'une, de la recherche de la gestion des risques et des catastrophes pour pouvoir justement détecter toutes les zones sensibles aux inondations. La dernière fois que cette captation avait été faite, c'était dans les années 70. Je remercie encore la Banque mondiale qui a vraiment fait confiance aux jeunes, nous ont fait confiance et on a pu effectuer cette série de captations qui nous a vraiment permis aussi de montrer qu'on était tout à fait capable de pouvoir répondre à certains types de requêtes. Au jour d'aujourd'hui, on doit faire la même chose, mais à l'échelle du pays. On doit tout simplement cartographier toutes les villes du Niger. Toujours dans le, on peut dire que ce sera dans le cadre de la suite par rapport au projet qu'on a réalisé en 2018.
J'ai envie de vous demander, quels sont les avantages de vos drones, entre vos drones et les drones qu'on peut trouver sur le marché, qui sont réalisés par de grandes marques?
Alors, ce que vous dites, c'est vraiment une question qui est très pertinente. Et d'ailleurs, je me suis longtemps posé la question, mais pourquoi ce choix de fabriquer tes propres drones? Or, tu pourrais tout simplement acheter des modèles en Europe, en Chine. Et la question, elle est toute simple. C'est que même si j'arrive à trouver un modèle adapté aussi bien en Chine ou en Europe, c'est que je suis dépendant de ce produit. Dépendant dans quel sens? Dans le sens où si jamais le constructeur décide d'arrêter la production, eh bien, qu'est-ce que je peux faire? Je serai en rupture de stock de ce produit-là et je n'aurai pas d'autre choix que de subir et d'attendre d'avoir la sortie d'un autre produit auquel je serai obligé de m'adapter. Premier problème. Le second problème, c'est que même si j'arrive à trouver un produit adapté, dans le cas où ce produit tomberait en panne, je serais obligé de le renvoyer soit en France, soit en Europe, ou alors dans un autre pays, pour qu'il puisse faire les réparations qui s'imposent. Il est difficile de réparer quelque chose qu'on n'a pas conçu soi-même. Et enfin, la dernière chose aussi, c'est que quand vous achetez un drone, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il est difficile d'avoir un drone qui puisse répondre à 100% à ce que vous voulez en faire. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de partir sur une feuille blanche. Voilà exactement ce qu'on veut faire. Voilà nos cahiers des charges. Et pour pouvoir répondre à ces cahiers des charges, voilà comment on doit faire la conception pour arriver au résultat.
Et Aziz, quel est votre business model?
Concernant notre business model, c'est simple, c'est que nous sommes sur trois secteurs. Donc au début, on est parti, et justement, et c'est ce qui fait rire un peu certaines personnes, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai jamais fait de business plan par rapport à cette activité. J'ai toujours voulu faire les choses à ma manière, en suivant mon feeling. Quand j'ai commencé, c'était, d'où d'ailleurs le nom, Drone Africa Service, c'était pour proposer des prestations de services. Ensuite, je me suis rendu compte que le marché était tellement grand qu'il était difficile d'y répondre. Et là, je me suis dit, on va se lancer dans la production. Et donc là, on s'est dit, OK, ben c'est simple, on va ouvrir des lignes de production de drones qu'on va construire et vendre pour pouvoir répondre à une partie de la demande. Donc ceux qui voudraient utiliser nos drones sans pour autant bénéficier de nos prestations de services, ils peuvent avoir le produit et faire le travail eux-mêmes. Sauf que le plus important, ce n'est pas d'acquérir l'outil, mais c'est de savoir s'en servir, d'où la formation.
D'accord.
Et donc là, on s'est dit, ben, si jamais on doit faire cela, il va falloir aussi qu'on essaye d'ouvrir un centre de formation pour former justement tous ces nouveaux télépilotes, parce que c'est un nouveau métier qu'on appelle télépilote, donc les pilotes de drones, pour qu'ils puissent utiliser les outils convenablement. Et on s'est rapproché donc de l'Agence nationale de l'aviation civile. C'est l'équivalent de la Direction générale de l'aviation civile en France, par exemple, ou de la FAA aux États-Unis. Et on leur a expliqué notre projet. Ils nous ont eux aussi fait confiance. Et au jour d'aujourd'hui, Drone Africa est une entreprise qui est capable justement de délivrer des attestations de formation qui sont reconnues par l'État du Niger, plus précisément par l'aviation civile.
Donc, vous avez la conception, la production. Il y a combien de drones que vous produisez par...
Actuellement, nous avons deux modèles de drones. Nous avons le T400, le T250 et nous avons encore d'autres modèles qui devraient sortir.
Et combien de drones par an vous produisez?
Nous avons une capacité de production de deux drones par mois, ce qui correspond à peu près 24 drones dans l'année.
D'accord. Donc, conception, production et formation.
Exactement.
Vous avez commencé avec combien, quelle somme vous avez mis pour commencer cette entreprise?
En tant que consultant indépendant ou pour Drone Africa Service?
Pour Drone Africa Service.
Pour Drone Africa Service, on est parti avec un petit budget qui ne dépassait pas les 5 000 euros. Donc, pour la première année, on avait réalisé un chiffre d'affaires très, très faible, mais c'était les débuts, qui tournaient autour de 15 000 euros.
Et aujourd'hui?
Aujourd'hui, nous avons des chiffres d'affaires qui avoisinent les 300 000 à 400 000 euros. Et nous avons une expansion, ce qui est parfaitement normal, parce que quand on avait commencé, c'était uniquement des prestations de services qu'on faisait. Mm-hmm. Mais au jour d'aujourd'hui, on va exploser notre chiffre d'affaires parce que nous avons aussi l'apport par la vente des drones, par la production qui a une phase de mûrissement qui est beaucoup plus...
Et est-ce que vous avez pu profiter de l'aide du gouvernement, des fonds publics?
Dans le cadre du gouvernement, le gouvernement a fait quelque chose qui revient à faire beaucoup plus qu'aider. C'est qu'ils nous ont fait confiance et il y a un voyage que je n'oublierai jamais. C'était avec le président Issoufou qui avait amené un panel de jeunes, notamment au Rwanda, qui avait vraiment pris le soin de présenter nos startups. C'est quelque chose qui nous avait beaucoup touché parce que à travers, par exemple, ce geste-là, il a permis aussi de montrer que les jeunes, il y avait des jeunes entrepreneurs qui sont là, qui sont au Niger, certes qui ne sont pas très, très grands, mais qui ont des ambitions. Je ne sais pas si on peut considérer ça comme étant de l'aide, mais ça nous a beaucoup aidé.
Oui, c'est un soutien.
C'est vraiment un soutien qui nous a beaucoup aidé. Ensuite, nous avons aussi beaucoup de partenaires. La GIZ, la Banque mondiale, ce sont des partenaires, l'OIF aussi, ce sont des partenaires auxquels on a dit, écoutez, nous sommes des jeunes, on a des idées, on a des projets. Et la meilleure façon de nous aider, c'est de nous utiliser pour ce qu'on sait faire.
Donc, ils ne vous aident pas financièrement, mais ils vous utilisent.
Pour moi, c'est la meilleure façon d'aider, c'est tout simplement...
Ils deviennent vos clients.
Voilà, c'est d'aider, c'est de nous... La meilleure façon de nous aider, c'est tout simplement de voir dans quelle mesure on peut être utile dans les projets qui sont menés en Afrique dans le cadre du développement. Et je pense que c'est la meilleure façon plutôt que de recevoir des aides dans le cadre des financements.
Aziz, racontez-moi comment vous avez fait, quels étaient les challenges au début de votre aventure, parce que c'est jamais facile quand on est entrepreneur.
Effectivement, ce n'est jamais facile. Au début, quand vous avez un rêve dans la tête, donc vous avez une vision, et il est difficile d'exprimer cette vision, d'expliquer aux gens ce que vous voulez faire. Donc au début, personne n'y croit. Les gens auront tendance à vous décourager en vous disant oh, « mais ça ne marchera jamais, mais ça ne marchera uniquement dans les pays développés. Tu t'imagines, tu vas perdre ton temps, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. » Et vous allez vous retrouver, si vous voulez, tout seul à porter votre projet en vous disant « mais moi, j'y crois. » Sauf que le jour où ça commence à fonctionner, là maintenant, vous avez toute une dynamique qui commence à se mettre en place et les gens commencent à y croire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous avez la sensation d'être incompris, d'être seul. Moi, dans mon cas, je l'ai beaucoup ressenti. C'est quelque chose vraiment que j'ai beaucoup ressenti dans le sens où je me suis dit que je n'étais pas là où je devais être. Peut-être que je devrais être en Europe ou bien peut-être dans un autre pays où il serait beaucoup plus facile de trouver des gens comme moi qui sont aussi experts dans le monde de l'aéronautique et qui pourraient facilement me permettent d'aller beaucoup plus loin. Et la formation aussi, c'est qu'en Afrique, il est difficile de se former. Pour fabriquer un drone, vous avez beaucoup de corps de métier qu'il faut maîtriser. Sauf qu'une grande partie de ces corps de métier n'existe pas, par exemple.
Mais alors, comment vous avez fait?
Comme je vous l'ai dit, YouTube. Ah,
d'accord, mais vos partenaires? Parce que vous avez fondé cette entreprise tout seul ou avec des...
Tout seul.
D'accord.
Tout seul, effectivement. Donc l'entreprise Drone Africa m'appartient à 100%. C'est une entreprise que j'ai monté de toutes pièces.
Et vous êtes combien aujourd'hui?
Aujourd'hui, nous sommes cinq. Donc, il y a cinq jeunes qui travaillent avec moi.
Ils ont quel âge?
Mais ce sont des jeunes qui ont entre 25 ans et 32 ans, qui travaillent avec moi et qui sont là et qui ont la même dynamique et qui voient dans la même direction.
Alors, j'aimerais que vous me parliez encore de l'entrepreneuriat en Afrique. entreprendre en Afrique s'apparente à un parcours du combattant.
Effectivement.
M'a-t-on dit, les obstacles sont de différentes natures, un environnement des affaires qui est peu favorable, des formalités administratives assez lourdes, un contexte parfois politique difficile. Alors comment vous avez fait pour ne pas abandonner, pour rester sur votre chemin?
Je pense que c'est tout simplement la passion. C'est, il faut deux choses, selon moi. Déjà, la première chose, c'est la passion. C'est de se dire que, ben, il faut y croire. Moi, quand je vais au travail, c'est parce que, c'est pas parce que c'est une corvée, c'est vraiment une passion. Je me régale à chaque fois que je vais au travail.
Mais la, il faut manger, hein.
Il faut manger, effectivement. Il faut manger. C'est vraiment une expression qui a tout son sens, dans le sens où, pour pouvoir faire grandir l'entreprise, pendant des années, je me suis vraiment privé où tout ce que je gagnais, je devais le réinvestir. Parce qu'on est quand même dans un milieu qui va très, très vite, dont la technologie se développe très, très vite. Donc, tout ce qu'on gagnait, on était obligé de le réinvestir pour la société. Donc, ça, c'était une première chose. La deuxième chose, il fallait aussi avoir de la patience. Entre les débuts, en tant que consultant indépendant, à aujourd'hui, il s'est quand même passé 10 ans. Pour en vivre, il m'a fallu attendre janvier, mais ça va faire peut-être maintenant 2 ans, 3 ans où je commence à en vivre, où la société me permet de vivre et de pouvoir justement porter d'autres projets. Donc, il faut un certain temps pour pouvoir voir ces projets mûrir.
Et vous avez fait quoi au quotidien? Vous avez fait pour vous lever et vous dire non, je crois à mon projet. Comment vous avez fait? Il y a des techniques pour ça?
Je pense que il n'y a pas vraiment, je pense que chaque personne doit avoir sa technique. Moi, dans mon cas, c'est que je faisais en sorte d'avancer pas à pas et d'aller aussi vers les autres.
Et vous avez visualisé aussi, non?
Oui, la visualisation qui est très, très importante. C'est vraiment le plus important. Et aussi le fait d'expliquer aux autres ce qu'on veut faire. D'aller faire des présentations auprès des partenaires pour leur expliquer. Voilà exactement ce que je voudrais faire et surtout à quoi ça sert. Parce que c'est bien beau de parler de drones, mais en vérité, le plus important, c'est quoi? Ça reste les données. Ce qui intéresse le client, ce n'est pas le drone en tant que tel. C'est quelles sont les données que le drone est capable d'amener, d'apporter. Mmh. Donc, il faut aussi se spécialiser sur tout cet aspect-là. Il fallait voir les ingénieurs agronomes pour leur en parler. Il fallait voir les cartographes pour leur en parler. Mmh. Il y a tout un schéma, il y a tout un environnement autour du drone où il fallait justement aller vers ces personnes-là pour leur parler du produit et aussi éveiller le besoin.
Et pour convaincre que votre produit, il
exactement.
Est peut-être plus adapté ou qu'il faut prendre votre produit et pas celui d'une autre entreprise.
Exactement, exactement aussi. Et c'est comme ça aussi qu'on a réussi à émerger. Et c'est ce que j'appelle l'effet boule de neige. Donc, vous faites du bon travail pour un client, il est satisfait, il en parle à un autre client. Et c'est comme ça qu'on a réussi, de bouche à oreille, à pouvoir émerger.
Ils font bouger la francophonie.
Yaziz, aujourd'hui, quels sont les challenges que vous avez? Donc, vous avez parlé de la formation des jeunes, mais je crois qu'il y a aussi des challenges au niveau de l'accès à la matière première.
L'accès à la matière première n'est pas vraiment une priorité pour nous. Ce que nous allons faire, c'est toujours continuer à maintenir une cadence de production par rapport au stock que nous avons. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la formation, c'est le volet formation. Parce que en 10 ans, j'ai beaucoup de choses à apporter et je voudrais en faire profiter les jeunes. Et la meilleure façon de le faire, c'est à travers une formation. Au jour d'aujourd'hui, je suis en instance de pouvoir ouvrir une école qui va s'appeler l'ENAL, l'École Nigérienne d'Aviation Légère,
d'accord.
où je voudrais former de jeunes Nigériennes dans le domaine de la troisième dimension, qui est l'aviation.
Donc, c'est quoi, le projet, il est prêt? Vous êtes prêt?
Le projet, il est prêt. J'ai suffisamment de fonds pour pouvoir le réaliser.
Mm-hmm.
Mais pour pouvoir ouvrir une école, il faut suivre des procédures. Donc, nous sommes dans ces phases de procédure de certification pour pouvoir l'ouvrir. Et ça sera une école qui sera orientée aussi bien vers la formation concernant les drones, pour pouvoir former les nouveaux télépilotes de demain, mais aussi orientée sur l'aviation légère, pour pouvoir sortir des pilotes d'avion ou bien des pilotes d'ULM qui pourront aussi utiliser ces compétences-là dans d'autres domaines, pour faire par exemple de la cartographie, de la surveillance.
Et les jeunes sont intéressés par ça?
Bien sûr.
Oui.
Bien sûr. parce que ce sont des métiers d'avenir dont l'Afrique a besoin et qui n'existent pas au jour d'aujourd'hui.
Vous pensez pouvoir avoir combien d'élèves ?
Dans l'école, je pencherai la première année pour à peu près une quarantaine d'élèves. Et ensuite, on va essayer de monter en crescendo. L'idée n'est pas d'avoir le maximum d'élèves. C'est, je pense, le plus important, c'est de pouvoir proposer des formations de qualité. Mm-hmm. Donc, déjà, ouvrir l'école. Une fois que l'école est accréditée et ouverte, commencer par former des élèves et ensuite faire en sorte aussi de voir la possibilité pour faire venir aussi d'autres élèves de d'autres nationalités. Et c'est pour moi le plus important cette année. Pour l'année 2022, ça reste pour moi l'objectif numéro un.
Et je veux revenir quand même sur la matière première parce que vous, je crois qu'à un moment donné, vous étiez face à un problème de batterie de lithium et c'est là où vous vous êtes dit non, je fais des drones solaires.
Bien sûr, nous sommes tout le temps dans une phase dynamique où on doit essayer de trouver des solutions pour s'adapter en fonction des problèmes qu'on rencontre. Aujourd'hui, il est très difficile, par exemple, de pouvoir transporter des batteries au lithium. Mm-hmm. Et donc, l'idée, par exemple, qu'on a, c'est de développer un drone solaire qui permettrait de pouvoir effectuer des missions de captation en parfaite autonomie, mais sans avoir à embarquer des batteries à bord ou en embarquer peu. Ou alors, pourquoi pas utiliser les batteries qu'on pourrait trouver au Niger, chez nous, à travers les ordinateurs portables, qu'on pourrait recycler pour être utilisé dans le cadre de la production. Donc, on est en constante réflexion.
Ils font bouger la francophonie.
Aziz, quels sont les éléments les plus importants pour être efficace et devenir rentable dans le cadre d'une entreprise comme la vôtre ?
Je pense que la première chose, c'est de rester à l'écoute de l'environnement et surtout ce que les clients veulent. C'est d'essayer de voir dans quelle mesure on pourrait réussir à répondre à ces requêtes-là. Et la meilleure façon de le faire, c'est vraiment de rester à l'écoute et de leur demander exactement quels sont les produits dont ils ont besoin pour essayer. Parce qu'on a tendance parfois à se dire, voilà ce dont ils ont besoin, or c'est tout autre.
D'accord.
Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est adapter le produit. Adapter le produit et ensuite, une fois qu'on a adapté le produit, normalement, ça devrait aller.
Vous avez présenté votre projet à l'Exposition universelle de Dubaï. Mmh. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ?
Pour moi, ça représente beaucoup. C'est vraiment énorme parce que c'est un beau geste que l'on doit à l'Organisation internationale de la francophonie qui nous a fait une fois de plus l'honneur de nous convier à cette exposition qui est absolument magnifique. Pour moi, ce sont des indicateurs comme quoi nous sommes toujours sur la bonne voie et que ça nous permet aussi de voir à travers Dubaï tout ce qui est en train de se faire. Et ça ne peut que nous encourager davantage lorsqu'on reviendra au Niger, à pouvoir poursuivre dans le même but, pouvoir développer aussi bien l'Afrique à travers les talents, tout ce qu'on peut faire.
Et est-ce que vous attendez quelque chose de plus de cette exposition, enfin de cette participation à l'exposition universelle, de faire parler de votre produit
Et je pense que Dubaï est vraiment une opportunité, notamment pour le climat des affaires. Ça va nous permettre très probablement de pouvoir renouer des contacts qui pourrait être fort utile, notamment dans le cadre de ce que nous sommes en train de faire. Ça, c'est la première chose. Et ce qui est sûr, c'est que je reviendrai à Dubaï.
Vous vendez vos drones aujourd'hui à d'autres pays ?
Alors, concernant la vente d'une drone, nous avons commencé à vendre spécifiquement au Niger.
D'accord.
Nous vendons aussi un peu au Burkina Faso et au Bénin. Donc, ce sont les trois pays, mais on a cette ambition de pouvoir vraiment commencer à en vendre partout dans l'Afrique.
Et si vous deviez donner trois conseils aux jeunes entrepreneurs, ça serait quoi ?
La première chose, c'est de rester à l'écoute, vraiment, de son environnement, de ne pas abandonner rapidement. Beaucoup d'entrepreneurs ont tendance à abandonner très rapidement. On dit que les trois premières années dans la vie d'un entrepreneur est capitale. Une entreprise qui arrive à survivre pendant les trois ans, après les trois ans, ça devrait aller. Donc, il y a cette capacité d'endurance. Un entrepreneur, il travaille 24 heures sur 24 pour le compte de son entreprise. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir cette capacité à endurer beaucoup de choses. La seconde chose, c'est avoir un plan, se fixer un plan, des objectifs. Peu importe le temps que ça prendra pour les atteindre, je pense qu'il faut rester sur sa ligne directrice et s'en tenir. Donc ça, c'est le deuxième conseil. Et enfin aussi, le troisième conseil, c'est qu'il faut oser. Il faut tout simplement oser. Il ne faut pas se dire que ce n'est pas possible, je ne vais pas y arriver. Je pense que c'est lorsqu'on sort de sa zone de confort que les meilleures choses arrivent. Donc voilà les trois conseils que je donnerai aux jeunes.
Aziz Seyni Kounche, merci beaucoup.
Merci, merci à vous.
Et si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous, partagez l'épisode et abonnez-vous sur le site francovox.org ainsi que sur toutes les plateformes de podcast.
Francovox, la plateforme des podcasts francophones en partenariat avec TV5 Monde.